Vous écoutez, on lit pour vous.
Pourquoi les humains sont-ils de si bons coureurs de fond? Un texte de Joel Archenbach du Washington Post, paru le 3 août 2024 dans Le Devoir. Aux épreuves d'athlétisme des Jeux olympiques, des personnes très rapides, d'une agilité fulgurante, aveuglante, palpitante, se disputent l'or. Quiconque a déjà pu voir des sprinteurs de calibre olympique à l'œuvre ne peut que s'émerveiller de leur puissance explosive et de leur capacité à atteindre des vitesses que la plupart d'entre nous ne peuvent égaler qu'avec l'aide d'un véhicule à moteur. Usain Bolt, détenteur du record du monde du 100 mètres, a d'ailleurs brièvement atteint une vitesse de pointe de 43,98 km/h lors d'une course en Belgique en 2011. Mais voici ce que les experts vous diront. Les êtres humains sont en fait plutôt lents par rapport à de nombreux animaux. En revanche, ils sont remarquablement doués pour les courses qui exigent de l'endurance, comme le marathon. Depuis près de 40 ans, des scientifiques se demandent pourquoi l'être humain est si bien équipé pour courir sur de longues distances. Une hypothèse est au cœur de la conversation, la théorie du coureur de fond. L'essentiel de cette proposition réside dans le fait que les caractéristiques physiologiques qui nous permettent de courir sur de longues distances sont des évolutions qui ont renforcé la capacité de nos ancêtres préhistoriques à poursuivre leur gibier et à le rattraper lorsqu'ils s'épuisaient. Car bien qu'un cerf puisse courir plus vite que nous, il s'épuise plus rapidement. Un être humain en bonne forme physique peut le doubler sur de longues distances. Cette hypothèse a été renforcée en mai 2024 par la publication d'une étude dans la revue Nature Human Behavior. Ses auteurs avancent deux nouvelles pistes pour étayer la théorie du coureur de fond. Tout d'abord, leurs calculs suggèrent qu'il est plus efficace, d'un point de vue énergétique, de courir plutôt que de marcher sur de mêmes longues distances à la recherche de gibier. Les chercheurs s'attaquent ensuite à l'une des principales réserves formulées à l'encontre de l'hypothèse de l'endurance. Les trop rares preuves que les sociétés de chasseurs-cueilleurs d'autrefois pratiquaient véritablement ce type de chasse. Ils ont passé des années à fouiller des archives historiques, y compris des récits remontant aux années 1500, et y ont trouvé de nombreux exemples de cette pratique. Une base de données comptant près de 400 exemples observés dans 272 endroits de la planète a ainsi été compilée. L'invention puis la circulation à grande échelle des fusils depuis les années 1800 semble toutefois avoir signé la fin de cette forme de chasse, estime l'anthropologue Eugène Morin, co-auteur de l'étude et professeur à l'Université Trent de Peterborough, en Ontario. L'homme, cet animal inhabituel. L'être humain possède des caractéristiques physiques inhabituelles ou inédites dans le reste du règne animal, notamment une abondance de glandes sudoripares, une pilosité relativement faible, des plantes de pieds arquées et des tendons d'Achille à l'allure de ressort. Nos muscles ont aussi une abondance de fibres à contraction lente qui sont plus efficaces pour les activités d'endurance. Les fibres à contraction rapide, elles, sont plus efficaces pour fournir une puissance explosive, par exemple lors d'un sprint. Le débat n'est toutefois pas clos, car il n'est pas clairement établi que ces caractéristiques anatomiques sont apparues par sélection naturelle pour améliorer notre capacité à courir sur de longues distances. Selon Nicolas Olofka, professeur adjoint en anthropologie à l'Université d'État de New York à Buffalo, il est possible qu'elles aient également facilité la marche. Le défi des chercheurs consiste maintenant à trouver des caractéristiques anatomiques qui sont clairement avantageuses pour la course mais qui, d'une certaine manière, n'améliorent pas aussi la marche, explique ce spécialiste de l'évolution de la bipédie qui n'a pas participé à l'étude. Ces nouveaux travaux ont été salués par Daniel Lieberman, professeur de biologie humaine évolutive à l'Université Harvard. ce grand défenseur de la théorie du coureur de fond souligne qu'un cheval peut courir 3 fois plus vite que l'homme le plus rapide qui soit, mais qu'un être humain peut battre des chevaux dans un marathon, ce qu'il a lui-même fait. Le problème, c'est que ces animaux n'ont plus d'essence dans le réservoir, illustre l'expert. Parmi les nombreuses adaptations de notre espèce, il y a aussi notre fessier volumineux. Le muscle grand glutéal s'active lorsque nous courons et il stabilise notre corps en nous empêchant de tomber sur la tête, explique le professeur Liberman. Et puis, il y a le grand cadeau de la transpiration. L'être humain est exceptionnellement doué pour dissiper la chaleur grâce à des glandes sudoripares réparties sur tout son corps. La rareté de ses poils par rapport aux autres mammifères favorise également l'évaporation de la sueur. Il est possible que nos ancêtres aient chassé pendant les heures les plus chaudes de la journée, lorsque leur proie était plus sujette à l'épuisement par la chaleur et que les animaux les plus dangereux, comme les grands félins, se reposaient à l'ombre. Un marathonien peut transpirer jusqu'à 4 litres de sueur par heure. C'est beaucoup, souligne le professeur Morin. Nous avons une peau nue, ce qui est inhabituel pour les mammifères. Un chien ne peut se refroidir qu'en haletant, note de son côté le professeur Liberman. Nous sommes les champions du monde de la sueur. En ayant des glandes sudoripares sur tout le corps et en perdant notre fourrure, nous avons essentiellement transformé notre corps en langue, illustre l'expert. C'était « Pourquoi les humains sont-ils de si bons coureurs de fond ?» un texte de Joël Archenbach du Washington Post paru le 3 août 2024 dans Le Devoir.
Les petits gestes. Compte-t-il vraiment? Un texte de Chloé Bourquin, paru le 6 août 2024 dans La Presse. Recycler, composter, prendre les transports en commun. Les petits gestes, faits individuellement pour la planète, peuvent paraître insignifiants à côté de la pollution générée par les industries, mais à quel point pèsent-ils dans la balance de la transition écologique? Je recycle. Je réutilise, je composte, je ne gaspille pas de nourriture, mais j'ai vraiment le sentiment d'être insignifiante face à l'industrie, à l'argent, qui domine tout. Même la pollution, confie Stéphanie Bélanger. Des messages comme celui-ci, nous en recevons chaque fois que nous publions un article dans la rubrique « Le facteur humain ». Ces dernières années, on observe une augmentation des symptômes de découragement climatique dans la population québécoise. D'après le baromètre de l'Action climatique en 2023, 68% des Québécois ont déclaré ressentir de l'impuissance à l'égard de la crise climatique, alors que cette proportion était de 62% en 2021. Et pour cause. De 75 à 80% des émissions de gaz à effet de serre, GES, dans la province, sont hors du contrôle direct des individus. Calcule Simon Langlois-Bertrand, chercheur à l'Institut de l'énergie Trottier de Polytechnique Montréal. C'est clair que ça peut être décourageant, surtout quand on ne voit pas vraiment de changement à court terme. On peut même finir par se demander à quoi bon faire autant d'efforts? Ajoute-t-il. Alors, devrait-on jeter l'éponge? La réponse des 3 experts interrogés par la presse est unanime, non. Mais il faudrait peut-être concentrer ses efforts là où cela compte vraiment, disent-ils. Les grands gestes à prioriser. Les actions individuelles qui ont le plus de poids sont généralement celles liées aux grands choix de vie, explique Valériane Champagne-Saint-Arnaud, professeur de communication environnementale et de marketing social à l'Université Laval. Avoir ou non une voiture, choisir la taille et l'emplacement de son logement, partir plus ou moins loin en vacances, opter pour une alimentation moins carnée. Ces choix, qui correspondent à notre style de vie, sont les plus susceptibles de déterminer l'ampleur de notre empreinte climatique. On devrait les prioriser avant les petits gestes, croit-elle. Pour Simon Langlois-Bertrand, les choix les plus payants sont ceux qui touchent au transport et au chauffage, car ce sont ceux qui auront le plus d'impact à moyen terme sur l'ensemble de la société québécoise. Privilégier les transports en commun, la marche ou le vélo, par exemple, opter pour un véhicule électrique ou encore se passer d'une seconde voiture. Cela montre une volonté de changement aux décideurs et ça les incite à prendre des mesures, explique Simon Langlois-Bertrand de l'Institut de l'énergie Trottier. Pour ce qui est du chauffage, changer sa fournaise au gaz naturel pour passer au chauffage à l'électricité va avoir un gros impact, souligne le chercheur. Et mieux isoler sa maison ou baisser le chauffage peut permettre de fortement diminuer sa consommation d'électricité, donc, ça réduit les besoins d'expansion du réseau électrique. Le passage à l'action par les petits gestes. Mais, outre ces grands choix dans nos modes de vie, que penser des petits gestes du quotidien, trier ses déchets, apporter son sac réutilisable à l'épicerie, etc.? Ces gestes, aussi petits soient-ils, ne sont pas insignifiants, car ils s'additionnent à d'autres, soutient Valériane Champagne-Saint-Arnaud. Ils ont aussi l'avantage de sortir du découragement climatique, car le moteur le plus puissant pour insuffler l'espoir, c'est l'action, explique-t-elle. De plus, les petits gestes ont leur importance, parce qu'ils sont très concrets. L'humain apprend par l'expérience, pas par la théorie, souligne Colleen Thorpe, directrice générale d'Équiterr. On apprend en faisant du vélo, en jardinant. C'est une composante essentielle du cheminement dans la transition écologique. Amplifier les petits gestes. Les gestes individuels s'inscrivent aussi plus largement dans la société et envoient un message au gouvernement. Pour Colleen Thorpe, si l'on souhaite agir plus pour le climat à l'échelle individuelle, il ne s'agit pas nécessairement de comptabiliser les émissions de GES liées à chacune de nos actions quotidiennes, mais plutôt d'amplifier les petits et grands gestes que nous faisons à travers des discussions avec notre entourage, l'implication dans les communautés locales ou même le vote. C'est comme cela que l'on crée un mouvement d'entraînement, explique-t-elle. Bien sûr, il n'appartient pas qu'à l'individu de changer ses habitudes, martèlent les experts. Les gouvernements et les industries doivent également apporter leur contribution. Mais se renvoyer la balle des responsabilités est un jeu stérile devant une planète qui brûle. Toutes les bonnes décisions en faveur du climat s'additionnent, qu'elles proviennent d'un citoyen, d'une mairesse, d'une chef d'entreprise ou d'un consommateur, croit Valériane Champagne-Saint-Arnaud. Et plus ces gestes écologiques sont rendus visibles, plus ils façonnent des normes sociales positives. Agir pour l'environnement est perçu comme le bon choix à adopter en société, ajoute-t-elle. Un avis partagé par Colleen Thorpe, par les petits gestes, on montre notre capacité à nous adapter, à persévérer. Ces gestes, c'est aussi avoir le courage de dire qu'il va y avoir un changement. À défaut de voir de grandes avancées à court terme, cela permet de cultiver notre résilience, de montrer que l'on peut évoluer, conclut-elle. 600 000. La ville de Montréal a annoncé dans un communiqué de presse qu'elle allait accorder près de 600 000 $ à des organismes à but non lucratif et à des écoles qui ont proposé divers projets visant à accélérer la transition écologique. Apprendre aux jeunes à faire du vélo. Créer des jardins urbains ou pédagogiques. Mettre en place des ateliers de sensibilisation ou valoriser des invendus pour réduire le gaspillage alimentaire. De nombreuses initiatives vont ainsi être financées par la ville. Le modèle Super Tout Nu. Source, Agence France-Presse. Ravioli, amandes, saumon fumé, mozzarella. Au Super Tout Nu, les denrées sont présentées dans des bocaux en verre qui s'alignent par centaines dans les rayons. Et pour chaque bocal rapporté, les clients reçoivent 10 centimes. Situé à Toulouse, dans le sud de la France, le Super Tonu tire son nom du plus simple appareil dans lequel se trouvent les aliments. Stephen Guilbeault, ministre fédéral de l'Environnement, à l'occasion de la publication du 6e rapport annuel du Comité mixte sur l'action climatique Premières Nations Canada, a dit « Les Premières Nations sont particulièrement bien placées pour trouver des solutions aux problèmes climatiques. Elles possèdent des liens culturels et spirituels profonds avec les terres, les eaux et les glaces, ainsi qu'avec les êtres vivants qui y habitent. Elles vivent dans leurs environnements, s'y adaptent et les gèrent depuis très longtemps. » C'était « Les petits gestes comptent-ils vraiment ?» un texte de Chloé Bourquin paru le 16 août 2024 dans La Presse.
Michel Robida, l'infatigable créateur. Un texte de Patrick Brunette paru le 17 juin 2024 dans le magazine Fugue. Pendant de nombreuses années, il a créé des costumes extravagants pour la télé et la scène. Il a habillé les plus grandes personnalités, dont Diane Dufresne et Julie Snyder. Aujourd'hui, il accepte de se mettre à nu et de parler de lui. Portrait de Michel Robida, un créateur pas comme les autres. Attablé à la foire alimentaire de la place Versailles, il me raconte toutes ses années à créer des costumes avant de s'arrêter et de résumer son parcours ainsi. « Quand je travaille, je suis encore le petit gars qui veut bricoler. C'est fou comme je suis pas loin de ce petit gars-là. » À 73 ans, Michel Robida n'a pas fini de nous impressionner. Ses créations pour Julie Snyder et Diane Dufresne font l'objet d'expositions cet été et cet automne. Il sera aussi styliste pour le spectacle « Beau dommage symphonique » mis en scène par Michel Poirier. « Je pense que je vais arrêter quand je vais être malade ou trop fatigué. » Michel Robida, l'infatigable créateur. L'enfant. Déjà enfant, il adorait le bricolage. Il aimait créer des poupées pour les sœurs de ses amis, m'avoue-t-il. Il se rappelle du temps qu'il passait, avec sa mère, à magasiner tissus et patrons. Quand j'étais petit, je m'asseyais à côté d'elle quand elle cousait. Je la regardais faire. J'aimais cette idée de voir quelque chose de plat qui se transforme en trois dimensions, qui bouge, qui vit. C'était de la magie à mes yeux. J'ai appris ça de ma mère, de bien travailler, me dit-il en me montrant une photo récente de lui et sa mère, maintenant âgé de 95 ans. L'aîné d'une famille de 5 enfants se rappelle des célébrations de l'Halloween dans le quartier de son enfance, Rosemont. « J'aimais pas ça, passer l'Halloween. Je préférais décorer chez moi et donner des bonbons. Et t'avais intérêt à avoir un beau costume si tu voulais que je te donne des bonbons, » s'exclame-t-il en riant. À l'école, j'étais bon dans tout ce que j'aimais, mais poche dans tout ce que j'haïssais. Ça faisait des bulletins très moyens. Amoureux de littérature, des arts, de géographie et d'histoire, Michel détestait les mathématiques et la science. Mon père était un gars de sport et j'avais moins d'affinité avec lui, se souvient-il. J'étais beaucoup plus près de ma mère parce qu'on avait des intérêts communs, comme la littérature. C'est à l'âge de 18 ans que Michel annonce à ses parents qu'il désire aller étudier en couture. L'orienteur scolaire le décourage. Mais voilà qu'après une année de cégep en sciences et lettres, Michel décroche et s'inscrit en couture. « Je voulais être Yves Saint-Laurent. » C'était le début de sa vie professionnelle. Vie amoureuse. Alors qu'il commence son premier emploi dans une compagnie de vêtements pour enfants à Dorion, il se fait montrer la porte de la maison familiale. La raison? Sa mère avait découvert des lettres d'amour dans son bureau. Elle était fâchée. Elle m'a dit « Tu vas devoir quitter la maison ». Et de qui provenaient ces lettres? De son amoureux qu'il avait rencontré à Montréal, Douglas Léopold. C'était avant qu'il soit connu, qu'il se fasse appeler Coco Léopold. Il était beaucoup plus jeune. Il était vice-recteur du département de musique à l'Université McGill. Michel ne s'en cache pas. À cette époque, il avait des chums, des blondes. C'était dans l'air du temps. « Je suis de la génération « Faites l'amour, pas la guerre ». La chanson qui illustre bien ça, c'est celle de Jean-Pierre Ferland. « Soignez votre compagnie ». Michel chantonne « Les hommes aux hommes, les femmes aux femmes. Les hommes aux deux, les femmes aux trois. Quand je dirai go, mélangez-vous et puis soignez votre compagnie ». En 1973, il se marie avec son amoureuse du moment. Sa mère lui demande le matin des noces « Pourquoi tu te maries ?» connaissant le passé de son fils. Michel ne regrette pas sa décision. De cette union naîtront deux filles. Aujourd'hui, Michel est fier de dire qu'il est grand-papa de 5 petits-enfants. En 1980, le couple se divorce. Aujourd'hui, il est en couple depuis plus d'un an avec son amoureux, Danny. C'est d'ailleurs en voyant une photo du couple sur Facebook que l'idée m'est venue d'approcher Michel pour lui proposer cette entrevue. Question de faire un retour sur sa vie personnelle et professionnelle. Habiller les stars. Ce qu'on entendait vers la fin des années 80, c'est que c'était un signe de réussite pour un chanteur ou une chanteuse au Québec d'avoir été habillé par Michel Robida, avoue-t-il sans fausse modestie. Michel fait ses débuts comme habilleur et ensuite assistant, puis finalement dessinateur à Radio-Canada de 1974 à 1996. Il travaille sur différentes séries, Duplessis, Laurier, Montréal PQ, sur des variétés musicales, avec Diane Dufresne, Céline Dion et bien d'autres, et aussi pour les revues de fin d'année, les fameux bye-bye. Mon métier a pu combiner mes trois passions, la littérature, les arts visuels et la mode. Faire des costumes, c'est un mélange de tout ça. Parce qu'au départ, tu travailles sur des textes qui t'inspirent. Ensuite, tu dessines les maquettes des costumes. Ce sont comme des tableaux. Finalement, tu fais le vêtement. Cette partie, c'est le métier de la mode pour moi, explique-t-il avec autant de passion qu'il avait à se remémorer les moments passés à côté de sa mère qui cousait. En 1996, les coupures budgétaires à Radio-Canada l'incitent à quitter son poste. « J'avais 46 ans, et là, tout ce qu'on m'offrait à Radio-Canada, c'était d'habiller des lecteurs de nouvelles pour les 20 prochaines années. » Julie Snyder. En 1997, il retrouve Julie Snyder à l'émission Le Point J, TVA, animatrice pour qui il avait créé plusieurs costumes alors qu'elle animait L'Enfer, c'est nous autres, Radio-Canada. T'as beau avoir des idées, ça prend des gens qui vont les mettre en valeur. Julie est une de ses muses. D'ailleurs, une exposition de la collaboration entre Michel et Julie se tient au Centre d'art Diane Dufresne à Repentigny jusqu'au 29 septembre 2024. Il y a un certain temps, Julie m'a donné un coup de fil, car elle voulait se débarrasser des costumes qu'elle avait encore. Et presque au même moment, la directrice du Centre d'art Diane Dufresne me demandait si j'aimerais faire une exposition sur le thème des costumes de Julie. Au moment de l'entrevue, Michel travaillait à mettre la touche finale à l'exposition « Michel Robida pour Julie Snyder ». 30 ans de costume fou se veut ludique, drôle et créative. Replonger dans ses anciennes créations comporte une part de surprise. Je l'avais habillé comme un feu de la Saint-Jean à L'Enfer, c'est nous autres. Julie portait une robe de feu et de bûche. Quand j'ai revu le costume, je me suis dit que ça faisait Jeanne d'Arc au bûcher. Mais au moment de la création, personne n'a jamais pensé à ça. Cette robe lui a même inspiré un atelier qu'il animera durant l'exposition « Comment restaurer un costume ». Attendez-vous à recréer des bûches en feu. Diane Dufresne. En parallèle de cette exposition, le créateur collabore à une autre expo qui plonge dans la carrière de Diane Dufresne, la grande dame de la musique et de la scène, qui célébrera du même coup son 80e anniversaire en 2024. Diane Dufresne, l'exposition immersive aujourd'hui, hier et pour toujours. La première fois qu'il travaille avec la diva québécoise, c'est pour l'émission musicale « Follement vôtre », diffusée en 1986. Par la suite, de nombreux projets ont réuni les deux artistes. On a vécu une fusion ensemble, un amour professionnel. Je l'étonnais, elle m'étonnait. On a vraiment eu des années de folie ensemble. L'exposition commencera le 13 septembre à l'Arsenal, à Montréal. Michel revisitera, entre autres, la robe théâtre qu'il avait créée pour le spectacle Top Secret. La robe symphonique deviendra quant à elle un décor. Michel Robida parle de cette exposition comme une expérience immersive à ne pas manquer qui soulignera les 65 ans de carrière de la diva. La suite. L'infatigable designer avoue avoir ralenti son rythme de travail depuis qu'il a emménagé en 2011 dans sa maison sur le bord d'un lac à Saint-Gabriel-de-Brandon, dans Lanaudière. J'ai diminué en partant de Montréal. C'était ça le but. Ne plus faire de séries où je dois être sur un plateau tous les jours. Je voulais juste faire des trucs ponctuels, au théâtre et à la télévision parfois. Et c'est dans son coin de pays qu'il a découvert une grande et belle communauté artistique qui s'est développée autour de la galerie Yves-Louis XVI à Saint-Gabriel. Le créateur a aussi développé une autre passion avec les années, la peinture. Le petit Michel bricoleur n'est pas loin, encore une fois. Ce que j'aime le plus de ma vie, c'est de toujours être dans des univers différents. Ça, j'adore ça. Info. Exposition Michel Robida pour Julie Snyder, 30 ans de costume fou. Du 18 juin au 29 septembre 2024, le Centre d'art Diane Dufresne, Repentigny. Diane Dufresne, l'exposition immersive aujourd'hui, hier et pour toujours. Du 13 septembre au 13 octobre 2024, l'Arsenal, Montréal. C'était Michel Robida, l'infatigable créateur. Un texte de Patrick Brunette, paru le 17 juin 2024 dans le magazine Fugue.